17h30 passait, pourtant la température de l'après-midi ne descendait pas. Il faisait chaud dans cette voiture de louage. Même la vitre ouverte du côté de la rue n'apportait aucune fraîcheur, rien d'autre qu'un souffle tiède, pénible. Henri tapotait son genou nerveusement. L'allusion de M. Péricourt à la vente de la salvière occupait tout son esprit. Si ça devait arriver, il l'étranglerait de ses propres mains, le vieux salaud. Quelle part avait-il pris réellement à ces difficultés, se demandait-il. Les avait-il encouragés? Pourquoi ce petit fonctionnaire était-il survenu d'un coup, avec cet entêtement, cet acharnement? Son beau-père n'y était vraiment pour rien. Henri se perdait en conjectures. Ses pensées sombres, sa fureur rentrée ne l'empêchaient pas de surveiller Dupré, qui, là-bas, arpentait discrètement le trottoir comme un homme masquant son indécision. Henri avait remonté la vitre de la voiture pour ne pas être aperçu, reconnu. Ce serait bien la peine de recourir à une voiture de louage pour être épinglé au premier coin de rue. Il était noué jusqu'à la gorge. À la guerre, au moins, on savait à qui s'en prendre. Malgré lui, et alors qu'il essayait de se concentrer sur les épreuves à venir, ses pensées le ramenaient sans cesse à la salvière. Renoncer à cela, jamais. Il y était encore allé la semaine précédente. Cette restauration était parfaite, l'ensemble de bâtiments avait une allure folle. On imaginait tout de suite, devant la large façade, le départ d'une immense chasse à cour ou le retour du cortège au mariage de son fils. Abandonner ses espoirs était impossible, personne jamais ne les lui ôterait. Après l'entrevue avec Péricourt, ne lui restait qu'une cartouche, une seule. « Je suis bon tireur », se répétait-il pour se rassurer. Il n'avait eu que 3 heures pour organiser sa contre-offensive avec une maigre troupe limitée à Dupré. Tant pis, il se battrait jusqu'au bout. S'il gagnait cette fois, ce serait difficile, mais il en était capable, sa cible unique deviendrait ce vieux salaud de Péricourt. « Ça prendrait le temps nécessaire, se dit-il, mais j'aurai sa peau. » Tout à fait le genre de serment qui lui faisait recouvrer ses esprits. Dupré d'un coup leva la tête, traversa précipitamment la rue et marcha rapidement en sens inverse, dépassa le porche du ministère, attrapa le bras d'un homme qui se retourna, surpris. Henri, de loin, observa la scène, évalua l'individu. Si cet homme avait été quelqu'un qui prenait soin de sa personne, tout aurait été possible, mais il avait tout d'un clochard. Ça serait compliqué. Planté au milieu du trottoir, l'air hébété, il dominait Dupré de la tête et des épaules. Hésitant, il tourna les yeux vers la voiture qu'on lui désignait discrètement, dans laquelle Henri attendait. Celui-ci remarqua ses énormes chaussures sales, fatiguées. C'était la première fois qu'il voyait un type ressembler à ses godillots. Enfin, les deux hommes rebroussèrent chemin, marchant lentement. Pour Henri, la première manche était remportée, ce qui était loin de constituer un avaloir sur la victoire. Il en eut confirmation dès que Merlin monta dans la voiture. Il sentait très mauvais et affichait un air revêche. Il avait dû se baisser beaucoup pour entrer dans la voiture et avait ensuite gardé la tête enfoncée dans les épaules, comme s'il s'attendait à une pluie de projectiles. Il posa au sol, entre ses pieds, une grosse sacoche en cuir qui avait connu des jours meilleurs. Il était âgé, proche de la retraite. Tout était vieux et moche chez cet homme à l'œil farouche, batailleur, négligé, à se demander pourquoi on le gardait. Henri avait tendu la main, mais Merlin n'avait pas répondu, se contentant de le dévisager. Mieux valait entrer dans le vif du sujet. Henri s'adressa à lui de façon faussement familière, comme s'il se connaissait de longue date et s'apprêtait à s'entretenir de choses sans importance. « Vous avez rédigé 2 rapports sur les cimetières de Chazières, Malmont et de Pontaville, n'est-ce pas ?» Merlin se contenta d'un grognement. Il n'aimait pas cet homme qui sentait le riche, qui avait tout d'un truqueur. D'ailleurs, pour venir le trouver ainsi, le rencontrer dans une voiture à la sauvette, « 3 !» dit-il. « Quoi ? Pas 2 rapports, 3. Je vais en remettre bientôt un nouveau sur le cimetière de Dargonne-le-Grand. » à la manière dont il le disait, Pradel comprit que son affaire venait de subir un nouveau tour de vis. « Mais vous y êtes allé quand ? Semaine dernière ? Pas beau à voir là-bas. »« Comment ça ?» Pradel, qui s'était préparé à plaider deux affaires, allait maintenant devoir courir après une troisième. « Bah oui !» dit Merlin. Il avait une haleine de chacal. Normalement, Henri aurait dû rester souriant, aimable, être le genre d'homme qui inspire confiance. Mais Dargonne, maintenant, ça le dépassait. C'était un cimetière modeste, 200 ou 300 tombes, guère plus, avec des corps à ramener du côté de Verdun. Quelle connerie en avait encore pu faire là-bas, il avait entendu parler de rien. Machinalement, il regarda dehors, Dupré était retourné à sa place précédente. Sur l'autre trottoir, les mains dans les poches, il fumait en regardant les vitrines, nerveux lui aussi. Seul Merlin restait calme. « Vous devriez surveiller vos hommes, » lâcha-t-il. Ben, « Évidemment, et c'est tout le problème, cher monsieur, mais avec autant de chantiers, comment voulez-vous » Merlin n'avait aucune intention de compatir. Il se tut. Pour Henri, le faire parler était vital, on ne peut rien obtenir de quelqu'un qui se tait. Il adopta l'attitude d'un homme captivé par une affaire qui ne le concerne pas personnellement, anecdotique mais passionnante. « Parce que, à Dargonne, qu'est-ce qui se passe au juste ?» Merlin resta un long moment sans répondre. Henri se demanda s'il avait entendu la question. Lorsque Merlin ouvrit la bouche, pas un trait de son visage ne se mit en mouvement, juste les lèvres. Il était difficile de deviner ses intentions. « Vous êtes payé à l'unité, hein ?» Henri écarta grand les mains, paume en l'air. « Bah, évidemment, c'est normal, hein, on est payé en fonction du travail. Vos hommes aussi sont payés à la pièce ?» Henri fit une moue. « Bah oui, bien sûr, et alors, où voulait-il en venir ? C'est pour ça qu'il y a de la terre dans les cercueils ?» dit Merlin. Henri écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a des cercueils sans personne dedans, » reprit Merlin. « Pour gagner plus d'argent, vos employés transportent et enterrent des cercueils dans lesquels il n'y a personne, que de la terre, pour faire le poids. » Le réflexe de Pradel fut surprenant. Il pensa « Quelle bande de cons, j'en ai vraiment marre !» et d'englober pêle-mêle Dupré et tous ces imbéciles sur place qui espéraient toujours pouvoir gagner un petit peu plus en faisant n'importe quoi. Pendant quelques secondes, l'affaire ne le concerna plus. Qui se débrouille, lui, il en avait sa claque. La voix de Merlin le rappela à la réalité et au fait que lui, en qualité de chef d'entreprise, se trouvait mouillé jusqu'au cou, les lampistes, ça serait pour plus tard. « Et puis, il y a les boches !» lâcha Merlin. « Les boches ?» Henri s'était redressé sur la banquette. Première lueur d'espoir, parce que s'il était question de ça, il était sur son terrain. Sur la question des boches, personne ne pouvait rivaliser avec lui. Merlin bougeait la tête, non, mais d'un mouvement si imperceptible qu'Henri, d'abord, ne s'en aperçut pas. Puis le doute surgit. Les boches, c'est vrai, ça. Quelles boches? Qu'est-ce qu'il venait foutre ici? Son visage devait refléter son état d'esprit parce que Merlin répondit comme s'il avait compris son incertitude. « Si vous y allez, à Dargonne, » commença-t-il. Puis il s'arrêta. Henri fit un mouvement du menton. « Allez, accouche, c'est quoi cette histoire ?»« Il y a les tombes françaises, » reprit Merlin, avec dedans des soldats boches. Henri ouvrit la bouche comme un poisson, atterré par cette nouvelle, une catastrophe. Un cadavre, c'est un cadavre, soit, pour Pradel, une fois mort, que le type soit français, allemand ou sénégalais, il s'en foutait complètement. Dans ces cimetières, il n'était pas rare de découvrir le corps d'un soldat étranger, un qui s'était égaré, et même, parfois, plusieurs, des soldats d'unités d'attaque, des éclaireurs, les mouvements de troupes faisaient sans cesse des allers-retours. Des consignes draconiennes étaient données à ce sujet. Les corps des soldats allemands devaient être strictement séparés de ceux des héros vainqueurs. Des carrés spécifiques leur étaient réservés dans les nécropoles créées par l'État. Si le gouvernement allemand, ainsi que le Volksbund Deutsche Kriegsgräber für Sorge, le service d'entretien des sépultures militaires allemandes, discutait avec les autorités françaises sur le sort définitif de ces dizaines de milliers de corps étrangers, en attendant, confondre un soldat français avec un boche relevait du sacrilège. Enterrer un boche dans une tombe française Imaginez des familles entières se recueillir devant des emplacements sous lesquels seraient inhumés des soldats ennemis, les corps de ceux qui avaient tué leurs enfants étaient proprement insupportables et confinaient à la profanation de sépultures. Scandale assuré. Je vais m'en occuper, murmura Pradel, qui n'avait pas la moindre idée ni de l'ampleur de cette catastrophe, ni des moyens pour y remédier. Combien y en avait-il ? Depuis quand mettait-on des boches dans les cercueils français ? Comment les retrouver ? Plus que jamais, il fallait que ce rapport disparaisse impérativement. Henri regarda mieux Merlin et prit conscience qu'il était bien plus vieux encore qu'il lui avait semblé d'abord, avec ses traits creusés et ce vitreux de l'œil qui annonce la cataracte, et une tête vraiment petite, comme certains insectes. « Il y a longtemps que vous êtes fonctionnaire ?» La question fut posée d'une voix cassante, autoritaire d'un ton militaire. Pour Merlin, elle eut l'air d'une accusation. Il n'aimait pas cet Aulnay Pradel qui correspondait si parfaitement à ce qu'il s'était imaginé, une grande gueule, un roublard, un riche, un cynique, le mot de mercantile lui vint à l'esprit, très à la mode. Merlin avait accepté de monter dans ce véhicule parce qu'il y avait intérêt, mais il s'y sentait mal, comme dans un cercueil. Fonctionnaire, répondit-il, toute ma vie. C'était exprimé sans fierté, sans amertume, simple constat d'un homme qui certainement n'avait jamais imaginé un autre état que celui-ci. Quel est votre grade aujourd'hui, monsieur Merlin ? C'était bien vu, mais blessant, et à peu de frais parce que, pour Merlin, stagner à quelques mois de la retraite dans les tréfonds de la pyramide administrative restait une plaie ouverte, une humiliation. Son avancement avait péniblement suivi les progrès exclusivement dus à l'ancienneté, et il se trouvait dans la situation d'un soldat du rang qui achèverait sa carrière sous l'uniforme d'un seconde classe. « Vous avez fait, » reprit Pradel, « un travail extraordinaire dans ces inspections. » Il était admiratif. Merlin aurait été une femme, il lui aurait pris la main. « Grâce à vos efforts, à votre vigilance, nous allons pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça. Les employés indélicats, nous allons les foutre dehors. Vos rapports vont nous être de la plus grande utilité. Ils vont nous permettre une reprise en main très ferme. » Merlin se demanda qui était ce « nous » dans la bouche de Pradel. La réponse arriva aussitôt, ce « nous ». C'était la puissance de Pradel, c'était lui, ses amis, sa famille, ses relations. « Le ministre lui-même sera intéressé, » poursuivit Pradel, « et je peux même vous dire, reconnaissant. Oui, reconnaissant pour votre compétence et votre discrétion, parce que, bien sûr, vos rapports nous seront indispensables, mais il ne serait bon pour personne que la chose s'ébruite, n'est-ce pas ?» Ce « nous » rassemblait un monde de pouvoir, d'influence, des amitiés au plus haut niveau, des décideurs, le haut du panier, à peu près tout ce que haïssait Merlin. « Je vais en parler personnellement au ministre, monsieur Merlin. » Et pourtant, c'était certainement le plus triste dans tout cela. Merlin sentait quelque chose monter en lui, à son corps défendant, à la manière d'une érection incontrôlable. Après tant d'années d'humiliation, connaître enfin une belle promotion, faire taire toutes les mauvaises langues et même commander ceux qui l'avaient humilié, il vécut des secondes d'une intensité folle. Pradel vit clairement sur le visage de ce raté que n'importe quelle nomination serait suffisante, n'importe quelle verroterie, comme pour les nègres dans les colonies. « Et je vais veiller, » reprit-il, « à ce que votre mérite et votre efficacité ne soient pas oubliés, mais au contraire, dignement récompensés. » Merlin hocha la tête en signe d'assentiment. « Tiens, pendant que vous y êtes, » dit-il d'une voix sourde, il se pencha vers sa grosse serviette en cuir et farfouilla un long moment. Henri commençait à respirer. Il avait trouvé la clé. Il fallait maintenant obtenir qu'il retire ses rapports, annule tout, réécrive même de nouveaux comptes rendus élogieux contre une nomination, un grade, une prime. Avec les médiocres, n'importe quoi fait l'affaire. Merlin fouilla encore un long moment, puis il se releva avec, à la main, une feuille de papier froissé. Pendant que vous y êtes, répéta-t-il, mettez aussi de l'ordre là-dedans. » Henri prit la feuille et la lut. C'était une réclame. Il blêmit. La société Frépaz proposait de racheter, à bon prix, tous les dentiers usagés, même brisés ou hors d'âge. Le rapport d'inspection devenait de la dynamite. « Ça fonctionne pas mal, ce truc-là, » reprit Merlin. « C'est un bénéfice modeste pour le personnel local, quelques centimes par dentier, mais bon, les petits ruisseaux font les grandes rivières. » Il désigna le papier que tenait Pradel. « Vous pouvez le garder, hein, j'en ai mis un autre exemplaire dans mon rapport. » Il avait repris sa sacoche et parlait à Pradel du ton de quelqu'un que la conversation n'intéresse plus. Et c'était vrai parce que ce qu'il venait d'entrevoir arrivait trop tard. Cet éclair de désir, la perspective d'une promotion, d'un nouveau rang, avait fait long feu. Il allait bientôt quitter la fonction publique et avait abandonné tout espoir de réussite. Rien n'effacerait jamais 40 années comme celles qu'il avait vécues d'ailleurs. Que ferait-il, assis dans un fauteuil de chef de service, à commander des gens qu'il méprisait depuis toujours? Il frappa sur sa sacoche. « Bon, c'est pas que je m'ennuie. » Pradel lui attrapa soudain l'avant-bras. Sous le manteau, il sentit la maigreur. On rencontrait tout de suite l'os, ce qui provoquait une impression très déplaisante. Cet homme était un volumineux squelette habillé chez les chiffonniers. « Combien payez-vous de loyer? Combien gagnez-vous ? » Les questions fusèrent comme des menaces. Fini les approches de loin, on allait clarifier le débat. Merlin, qui n'était pas impressionnable, eut tout de même un mouvement de recul. Toute la personne de Pradel exsudait la violence. Il lui serrait l'avant-bras avec une force terrible. « Combien vous gagnez ? » répéta-t-il. Merlin tenta de reprendre ses esprits. Bien sûr, il le connaissait par cœur, ce chiffre. 1044 francs par mois, 12 000 francs par an, avec lesquels il avait végété toute sa vie. Rien à lui, il mourrait anonyme et pauvre, ne laisserait rien à personne et de toute manière, il n'avait personne. La question du traitement était plus humiliante encore que celle du grade circonscrite au mur du ministère. La gêne, c'est autre chose. Vous l'emportez partout avec vous, elle tisse votre vie, la conditionne entièrement. À chaque minute, elle vous parle à l'oreille, transpire dans tout ce que vous entreprenez. Le dénuement est pire encore que la misère parce qu'il y a moyen de rester grand dans la ruine. Mais le manque vous conduit à la petitesse, à la mesquinerie. Vous devenez bas, pingre. Il vous avilit parce que, face à lui, vous ne pouvez pas demeurer intact, garder votre fierté, votre dignité. Merlin en était là, sa vision s'était obscurcie. Quand il reprit ses esprits, il eut un éblouissement. Pradel tenait une énorme enveloppe bourrée à craquer, de billets larges comme des feuilles de platane. On faisait plus dans la dentelle. L'ancien capitaine n'avait pas eu besoin de lire Kant pour se persuader que tout homme a son prix. « On ne va pas tourner autour du pot, » dit-il fermement à Merlin. « Dans cette enveloppe, il y a 50 000 francs. » Cette fois, Merlin perdit pied. 5 ans de salaire pour un raté en fin de course. Devant de telles sommes, personne ne peut rester indifférent. C'est plus fort que soi. Aussitôt, vous avez des images. Votre cerveau commence à calculer, cherche des équivalents. Combien vaut un appartement, une voiture? Et dans celle-ci, Pradel sortit une seconde enveloppe de sa poche intérieure, la même somme. 100 000 francs. 10 ans de salaire. La proposition eut un effet immédiat, comme si Merlin rajeunissait de 20 ans. Il n'hésita pas une seconde, arracha littéralement les deux enveloppes des mains de Pradel, ce fut foudroyant. Il se pencha vers le sol, on aurait dit qu'il s'était mis à pleurer, il reniflait, penché sur sa sacoche qu'il bourrait avec les enveloppes comme si elle était percée et qu'il eût fallu en tapisser le fond pour limiter les dégâts. Pradel lui-même fut pris de vitesse, mais 100 000 francs, c'était énorme, il en voulait pour son argent. Il attrapa de nouveau l'avant-bras de Merlin à lui casser l'os. « Vous me foutez tous ces rapports aux chiottes » dit-il, les dents serrées. « Vous écrivez à votre hiérarchie que vous vous êtes gouré, vous dites n'importe quoi, je m'en fous, mais vous prenez tout sur vous, t'as compris ?» C'était clair, bien compris. Merlin balbutia « oui, oui, oui », renifla en larmes. Il se propulsa hors de la voiture, Dupré vit surgir sur le trottoir sa grande carcasse comme un bouchon de champagne. Prindel sourit avec satisfaction. Il repensa aussitôt à son beau-père. Maintenant que l'horizon s'était dégagé, il allait étudier la question primordiale, comment faire la peau à cette vieille ordure. Dupré, penché, cherchait du regard son patron à travers la vitre de la voiture d'un air interrogateur, et lui, songea Prindel, je vais le reprendre en main.